Bonjour et bienvenue à tous nos auditeurs sur Radio Médecine Douce. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce début d'après-midi. Aujourd'hui, nous recevons un intervenant que ne présente plus tant il est connu dans le monde des médecines naturelles, c'est le docteur Luc Baudin. Bonjour.
Bonjour, bonjour à vous, bonjour à tous. Merci d'être là, à tout m'écouter.
Comment allez-vous ?
Bien, je vais très bien, je suis plein d'énergie et je suis vraiment très content d'être là avec vous aujourd'hui et de partager justement mes idées, mes opinions, mes points de vue et puis bien sûr mes expériences et tout ce que j'ai pu observer au cours de toutes ces années de travail médical.
En tout cas, c'est un plaisir, même un honneur de vous recevoir sur cette radio et j'espère que cette collaboration se prolongera dans le futur. Voilà, en tout cas, aujourd'hui, on est là pour présenter un de vos livres, car vous en avez écrit de nombreux. Celui-là s'appelle « Soigner avec l'énergie, les thérapies quantiques et psycho-énergétiques », édité chez Guy Trédaniel. Alors, les gens vous connaissent déjà un petit peu, docteur, mais est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu ce qui vous a mené à vous intéresser à un moment dans votre carrière aux approches de santé naturelle et particulièrement aux médecines énergétiques ?
Je vous dirais que les médecines naturelles, pour reprendre une expression, je suis pratiquement tombé dedans quand j'étais petit parce que ma famille a toujours été bercée par tout ce qui était acupuncture, homéopathie. Mon père exerçait d'ailleurs la médecine en acupuncture, homéopathie. Donc j'ai vraiment été ouvert à cela depuis très jeune. Et vous savez, souvent la vie nous fait des surprises, bonnes ou mauvaises, et il y a eu des problèmes de santé au niveau de ma famille qui m'a ouvert aussi les yeux sur toute la force que pouvait apporter la médecine conventionnelle, mais aussi toutes ses manques. Et c'est pour ça qu'au cours de toutes mes années d'exercice de la médecine, j'ai toujours, tous les ans, j'ai suivi des formations d'acupuncture, bien sûr, d'homéopathie pour commencer, de sophrologie, de phytothérapie, de ligothérapie, de micronutrition, de micro-immunothérapie, d'ostéopathie, et puis tout ce qui était aussi psychologique, et ça m'a passionné également, tout ce qui est PNL, là encore, je vous ai parlé de la sophrologie, mais c'est aussi tout ce qui est la symbolique des maladies. Et puis, au cours de ma carrière, j'ai eu l'occasion et la joie de soigner un grand nombre de personnes qui étaient magnétiseurs, guérisseurs, rebouteux. J'ai travaillé en Normandie, donc on en a beaucoup là-bas. Et ils venaient me voir parce qu'en fin de compte, ils savaient aussi que j'allais les écouter et que je n'allais pas me moquer d'une manière... la fameuse guéguerre entre les magnétiseurs et les médecins n'existait pas chez moi. Et donc, au contraire, j'étais heureux de partager avec eux. Et ça m'a toujours beaucoup étonné que des personnes arrivent à soigner simplement avec les mains. Et donc j'ai commencé, grâce à eux, à expérimenter. Puis après ça, j'ai suivi des formations. J'ai été à l'étranger voir les guérisseurs philippins. J'ai été voir les Amchis au Tibet. J'ai été au Mexique. Donc j'ai vu un petit peu tous les personnes qui travaillaient sur ces techniques. Et voilà. Donc je suis resté un certain temps comme ça, un peu dans l'expectative, parce que l'énergétique commence déjà avec l'acupuncture. Il ne faut pas l'oublier. Et puis après ça, on le retrouve aussi avec l'homéopathie, qui est quand même une médecine d'information, un passage d'information. Mais j'ai pas osé passer le cap jusqu'à ce que je découvre la physique quantique. Et là, la physique quantique, pour moi, était une grande révélation, parce que ce qu'elle disait corroborait à mes yeux les activités, l'expérience de ces médecines ancestrales, qu'elles soient chinoises, indiennes ou européennes. Et donc ça m'a complètement libéré, et voyant cela, j'ai commencé, bon an mal an, à l'exercer sur mes patients. Et une technique en apprenant une autre, j'ai vu les résultats, j'en ai vu les bienfaits, quasi immédiats pour certains d'entre eux, et ça m'a vraiment donné l'envie de poursuivre et de continuer. Voilà, donc c'était un peu le chemin que j'ai poursuivi. Et au niveau de mes livres, par exemple, j'ai commencé beaucoup à travailler avec les livres, je suis plutôt d'ordre médical, que j'ai donné mes points de vue, mes conseils, mes idées sur le cancer notamment, sur la maladie d'Alzheimer, sur la fibromyalgie, qui sont vraiment des maladies que j'avais beaucoup étudiées au niveau des médecines naturelles. Et puis maintenant, j'ai vraiment envie de montrer à tous qu'on peut soigner avec l'énergie et qu'il n'y a pas besoin non plus d'avoir un don. Aujourd'hui, tout le monde est capable de travailler, de faire des soins au niveau énergétique. Tout le monde peut le faire, il n'y a pas de souci. Voilà, je pense que...
Alors, est-ce que votre...
Oui, allez-y.
Oui, excusez-moi. Est-ce que finalement, ça étonne un petit peu vos confrères, toute cette ouverture d'esprit ?
Oui, tout à fait. C'est évident que les confrères ne l'entendent pas, ne le comprennent pas pour la plupart. Là, j'avais la chance d'être aussi dans une ville où les gens étaient aussi très, très. Les médecins se connaissaient bien et il n'y avait pas une rivalité, il n'y avait pas de. Bon, même si je faisais un petit peu l'office du mauvais petit canard de l'histoire, mais ça n'empêche qu'ils me respectaient et je n'ai jamais eu de soucis par rapport à ça, parce que j'étais médecin généraliste, je faisais des gardes, je n'ai jamais dit à qui que ce soit de ne pas faire les traitements conventionnels, et au contraire, je les respecte tout à fait parce qu'ils ont leur place, mais seulement il faut aussi donner la place aux médecines naturelles, ce qui est malheureusement oublié.
Oui, finalement, vous tendez plus vers un concept de médecine intégrative que de choisir, en fait. Vous ne faites pas le choix entre la médecine allopathique et les approches de santé naturelle. Vous avez réussi à lier les deux dans votre pratique à vous.
Ah oui, tout à fait. Ça a été toujours mon éthique et l'idée était toujours de donner à mes patients le meilleur traitement qu'il soit. Donc, ce qui me paraît juste, c'est-à-dire, je dis souvent en plaisantant, si j'ai un infarctus tout de suite, surtout appelez le SAMU. Ne me donnez pas des petites fleurs de Bac. À la rigueur, donnez-moi des petites fleurs de Bac en attendant le SAMU, mais appelez le SAMU. Donc, la médecine conventionnelle a sa place au niveau des urgences, au niveau des maladies graves, au niveau des traumatismes, au niveau de la chirurgie. Ça, ce sera indéniable. Elle l'aura toujours. Par contre, le problème, c'est qu'elle prend toute la place aujourd'hui. Et là, je suis pas d'accord. Et je trouve que la médecine naturelle a beaucoup, beaucoup, quand je vois, par exemple, ces personnes qui meurent de maladies nosocomiales parce que les antibiotiques sont résistants, ils ont des germes résistants à tous les antibiotiques. Je suis très attristé parce que peut-être, je ne sais pas, j'en suis pas sûr, mais peut-être que les huiles essentielles auraient donné des résultats pour les aider, peut-être même pour les guérir. Et donc cet obscurantisme qu'a la médecine conventionnelle par rapport aux médecines naturelles m'afflige terriblement. Et donc au niveau de mes patients, bah, selon qu'une personne venait pour un abago, je lui faisais de l'ostéopathie. S'il avait un problème d'eczéma, je lui donnais plutôt de l'homéopathie. Un problème de douleur, je lui faisais de l'acupuncture. Un problème d'angine de poitrine, je lui donnais de la médecine conventionnelle. Voilà, donc j'essayais, et ça ne me dérangeait pas, d'associer ces différents traitements au sein même d'une même ordonnance.
Au contraire, c'est peut-être dans cette globalité-là que vous avez les meilleurs résultats.
Exactement, exactement. Et mes patients étaient tout à fait contents parce que bah, quand on donne un antibiotique, et on est bien obligé de temps en temps d'en donner, c'était rare, mais j'en donnais, eh bien on peut donner tout à fait du Nuxovomica, par exemple en homéopathie, pour drainer le foie, pour préserver le foie des méfaits de l'antibiotique. Je pouvais donner aussi des probiotiques qui allaient régénérer la flore pour éviter que les antibiotiques les dégradent. Donc on peut très bien, en associant ces différents pratique, ça donnait vraiment un résultat, ça potentialisait les résultats. Et je l'ai vu en particulier aussi dans les traitements du cancer. On a eu des preuves, par exemple, bon, bien sûr, c'est des preuves qui n'ont été obtenues que dans le monde animal, parce que les études sur les humains ne sont pas faciles à faire et sont très chères, mais on s'est rendu compte que certains produits, je pense en particulier à la propolis, par exemple, avec la chimiothérapie, donnaient des résultats pour potentialiser les résultats de la chimiothérapie comme de la propolis. Donc, l'union, non seulement les effets non seulement s'additionnent, mais ont tendance même à se multiplier. Donc c'est dommage qu'on se coupe de tout ça, parce que c'est vraiment très très, c'est des apports extrêmement importants. Et de toute façon, pour moi, dans ma vision, c'est que de toute façon, la médecine naturelle va reprendre sa place d'une manière obligatoire. Parce que la médecine conventionnelle, depuis ces 10 dernières années, pour ne pas dire ces 20 dernières années, les médicaments n'ont rien inventé de spécialement nouveau. Il n'y a pas eu de traitement révolutionnaire comme on a pu voir il y a quelques années sur les traitements anti-acides de l'estomac, par exemple. Donc on a tout refait, donc on sait très bien manipuler les produits qui existent, on a trouvé des molécules de même famille, peut-être plus performantes, mais on est toujours sur les mêmes remèdes qu'auparavant. Et donc aujourd'hui, la médecine naturelle, la médecine conventionnelle marque le pas quelque part, et alors que la médecine conventionnelle prend de plus en plus d'ampleur. Et obligatoirement, un peu comme ce qui s'est passé pour l'homéopathie a pu s'installer officiellement grâce à l'appui des patients. Ce sont les patients qui ont fait que l'homéopathie a été reconnue par la médecine conventionnelle. Et je pense que pour le reste, ce sera pareil. Les patients vont avoir un poids suffisant avec le temps pour imposer ces traitements naturels.
Tout à fait. C'est vrai que le consommateur fait finalement le choix de sa liberté thérapeutique et personne ne pourra lui enlever.
Pour le moment, il n'a pas un grand choix thérapeutique, malheureusement, mais le problème, c'est que c'est surtout les problèmes de remboursement de tous ces produits-là. Mais en définitive, mis à part le problème du remboursement, c'est vrai que le libre choix thérapeutique est un élément extrêmement important. Et je dirais même que moi, je suis aussi pour la liberté de choix, y compris pour les vaccins. Alors, je sais que je touche un point extrêmement sensible en disant ça. Je ne suis pas contre les vaccins, attention, c'est pas du tout mon sens. C'est simplement de dire que chacun devrait être libre de choisir s'il fait ou non des vaccins et de choisir les vaccins d'une manière intelligente en fonction des personnes et non pas faire des milliers de vaccins à des enfants qui ont moins d'un an de vie. Je trouve que c'est très, très dommage. Par contre, de faire des vaccins choisis en prenant le temps, en choisissant le moment, en faire quand l'enfant est en forme et les étaler le plus possible, me paraîtrait déjà beaucoup plus raisonnable.
Alors, la raison pour laquelle vous avez écrit ce livre, c'est que vous aviez envie finalement de répertorier un petit peu toutes ces approches de santé énergétique, psychocorporelle. Vous aviez envie d'éviter les amalgames qui sont trop souvent faits.
Vous parlez de quel amalgame surtout ?
Peut-être l'aspect sectaire, lorsqu'on parle souvent d'énergétique, on entend souvent ça.
Oui, c'est-à-dire ce que j'ai voulu, c'est surtout montrer que beaucoup de fois, des fois, on fait même de l'énergétique sans même s'en apercevoir. Donc, déjà, l'acupuncture, comme je vous le disais tout à l'heure, est une médecine basée sur l'énergie. On va poser des aiguilles pour lever les blocages énergétiques, en fait. Et donc, à partir du moment où on enlève ces blocages et que la circulation se fait d'une manière naturelle dans l'organisme, la personne relance, le corps va relancer ses processus d'auto-guérison, d'auto-réparation. La médecine ayurvéda, est aussi une médecine énergétique. Le magnétisme est aussi une médecine très intéressante. Le reiki, les toucheurs de feu. Moi, j'ai vu des résultats extrêmement intéressants avec les toucheurs de feu. Et j'ai même, de ce fait-là, appris la prière du feu. Et il est vrai que quand on fait cette prière-là, tout simplement, eh bien, on obtient un soulagement de la brûlure dans les minutes qui suivent. Et ça permet d'avoir des cicatrisations beaucoup plus rapides. Ça, je l'ai vu en la pratiquant moi-même. Donc, j'ai voulu montrer un petit peu toutes ces techniques qui existaient déjà, et puis surtout montrer au lecteur que tout ça aujourd'hui, alors que c'était empirique auparavant, eh bien tout ça aujourd'hui sont corroborés par les études et les résultats de la physique quantique d'aujourd'hui. La physique quantique peut paraître extrêmement compliquée quand on regarde évidemment les formules mathématiques qui s'y rattachent, mais par contre elle est extrêmement simple quand on voit la question posée et les réponses qui en sortent. Et donc on s'aperçoit que l'être humain est d'abord énergétique avant même d'être biologique, d'être chimique, biologique et matériel. Là, tous nos atomes ne sont construits que par des concentrations d'énergie. Nous sommes qu'une condensation d'énergie. Donc nous sommes de l'énergie. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, on utilise aussi couramment l'électricité dans notre corps. On fait des électrocardiogrammes, donc c'est l'électricité au niveau du cœur. On fait des électromyogrammes au niveau des muscles. On fait des électroencéphalogrammes au niveau du cerveau. On sait que chacune de nos cellules a des potentiels différents entre l'intérieur et l'extérieur, des charges électriques différentes. Donc on sait déjà que l'homme est très, très basé sur l'électricité. Et en plus, comme n'importe quelle particule ou atome de la nature, il est formé d'une concentration d'énergie. Et donc on comprend ça en voyant ça, que les soins qu'on peut apporter au niveau énergétique ne peuvent qu'avoir qu'un impact sur le corps. Mais ce que je dis souvent, c'est que les traitements énergétiques sont intéressants. Ils vont avoir une excellente place au niveau de la prévention des maladies. Ils ont une excellente place aussi pour les chocs émotionnels, pour travailler sur tout ce qui est psychologique. Et aussi, ça va beaucoup aider au niveau des troubles physiques. Mais quand il y a une atteinte au niveau physique dans le corps, quand par exemple, on a parlé de tout à l'heure du cancer, il est bien sûr important, les soins énergétiques vont avoir une place extrêmement intéressante lors d'un cancer, mais ils ne sont pas des traitements alternatifs, ce sont toujours des traitements que je conseille en complémentarité des médecines conventionnelles pour donner vraiment un maximum de chances à nos patients. Par exemple, au niveau d'un soin énergétique, on peut obtenir des régressions de la taille des tumeurs, ce qui fait que les interventions qui sont faites ensuite vont être déjà beaucoup plus simples que si on n'avait rien fait au niveau des soins. Donc l'intervention est toujours souhaitable, mais si on a réussi à faire des soins, c'est aussi des éléments qui vont améliorer et préparer la chose. Et vous savez, j'en discutais encore avec des amis américains il n'y a pas si longtemps. Ils me disaient, ils étaient très étonnés que nous, en France, nous en soyons encore aujourd'hui à nous poser la question de savoir si on a encore, si l'être humain est formé de corps énergétiques. Pour eux, c'est une lapalissade,
une évidence
absolue. Et donc, ils en sont même plus à se poser cette question-là. Ils sont plutôt en train de se poser la question comment peut-on s'en servir pour l'évolution de la personne, pour les soins de la personne. Et il n'y a pas que les Américains. Les Russes le font depuis très longtemps avec la guerre froide. Ils ont été pris une avance très importante. Donc, nous, on est encore dans les starting blocks, alors que bon nombre de pays étrangers sont déjà largement à 300 mètres devant nous.
Et selon vous, qu'est-ce qui fait encore blocage en France pour accepter cette idée ?
Vous savez, les blocages en France, c'est toujours parce qu'on veut toujours... Vous savez, la physique quantique a du mal à s'implanter également parce que elle nous donne aussi une philosophie de la vie. Elle nous oblige à voir la vie différemment. Par exemple, on se pose la question de qui a organisé tout ça. Parce que, par exemple, la matière est une concentration d'énergie. Chaque particule est une concentration d'énergie. Donc, et inversement, la matière peut se retransformer en énergie. Donc, d'un côté comme de l'autre. Mais on peut se poser la question, qui est-ce qui fait que la matière, un jour, une énergie se transforme en matière? Qu'est-ce qui a donné cette impulsion? Alors, on parle pudiquement de l'information. Il y a eu l'information qui a donné cette impulsion. Mais, alors, on peut, pour l'être humain, on va parler de la pensée, par exemple. Mais pour l'univers, de qui parle-t-on? Alors, il y en a pudiquement, on parle d'un grand ARN cosmique, comme le disait Smoot, qui était un prix Nobel d'il y a quelques années, un prix Nobel en physique de quelques années. Il parlait d'ARN cosmique, c'est-à-dire une grande source d'information qui organiserait l'univers et qui le donnerait. Mais bon, il y en a d'autres qui vont parler de l'architecte, il y en a d'autres carrément qui parlent de Dieu. Donc, c'est évident que dans un pays laïque, au moins qui se rapporte au laïcisme, à la laïcité, c'est pas toujours bien compris.
Perçu. Ouais.
Après ça, l'autre côté également, c'est le côté des médecines naturelles qui ont toujours du mal à s'implanter en France parce que les traitements conventionnels ont pignon sur rue et prennent la place. Donc là encore, qu'ils prennent une place, c'est bien, qu'ils prennent toute la place, ce n'est pas du tout souhaitable.
Oui, puis peut-être ce qui est novateur dans ces approches de santé, c'est plus particulièrement leur philosophie, parce que on va essayer de trouver un sens aux mots, un sens à la maladie.
Voilà, tout à fait. Souvent, la maladie, d'ailleurs, j'ai vu très souvent dans les maladies l'énergétique, si vous voulez, est à l'interface entre le physique et le psychisme. Et donc, très souvent, il y a au tout départ d'une maladie un choc émotionnel. Alors, ce choc émotionnel, contrairement à ce qui est dit souvent, n'est pas la cause de la maladie, il est le facteur déclenchant, ce qui est différent. La cause est vraiment toujours, comme on le dit en médecine conventionnelle, les traitements, on dit que c'est un virus, que c'est un rayonnement, que c'est un polluant, que c'est un allergène. En médecine naturelle, on va parler de toxines, on va parler d'acides, etc. Mais donc, c'est tout à fait un point de vue juste. Mais qu'est-ce qui fait que la maladie va se déclencher à tel endroit et pourquoi aujourd'hui? Eh bien, tout simplement, c'est le choc émotionnel qui va déclencher, qui va mettre le feu aux poudres. Il met le feu, c'est la mèche, mais les poudres, la poudre, c'est pas lui, c'est des causes physiques et c'est là les véritables causes. Donc, l'énergétique se circule entre les deux et fait le lien aussi. Il va travailler autant sur le choc émotionnel de départ que sur les troubles au niveau physique. Donc, vraiment un lien extrêmement fort et c'est pour ça que ça m'a beaucoup attiré parce que c'est vraiment une manière qui fait le trait d'union entre les médecines, les médecines physiques et les médecines psychologique et également ça permet d'expliquer, de comprendre beaucoup d'actions que l'on obtient au niveau des traitements.
Vous avez aussi consacré un chapitre sur l'aspect « nous sommes co-créateurs des choses ». Et finalement, vous insistez aussi pas mal sur ce pouvoir qu'on a dans notre attention, dans notre état d'esprit. Si on garde un état d'esprit positif, on peut accéder à plus de choses. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus ?
Oui, 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 volontiers, parce que c'est quelque chose. Déjà, l'état d'esprit est très intéressant. Vous savez, il y a une étude qui a été faite il y a quelque temps, une étude très sérieuse qui a été faite sur plusieurs milliers de personnes sur plusieurs années, qui a montré que le bonheur est contagieux. Donc c'est assez, je dis souvent en plaisantant, attention, faites attention de ne pas attraper cette maladie, le bonheur est contagieux, parce qu'en fin de compte, ils se sont aperçus que quand une personne était heureuse, oui. Bon, elle le transmettait à son conjoint, à sa conjointe, à ses enfants, à ses parents, bon, on s'en doutait un peu, il n'y a rien de très surprenant là-dedans. Transmettait à ses amis aussi, ok. Mais ce qu'on s'est aperçu, c'est que non seulement elle le transmettait à ses amis, mais aux amis des amis. Et aux amis des amis des amis. Donc trois générations d'amis, si je peux dire, alors que les amis des amis des amis, elles ne les connaissaient pas forcément. Donc il y a vraiment un rayonnement de ce bonheur, et ce bonheur rayonne aussi sur plusieurs kilomètres à la ronde. Et donc si vous avez déjà votre voisin de palier qui est heureux, qui lui a des bons événements, bah soyez c'est bien parce que il va transmettre déjà une partie de ce bonheur. Donc c'est le premier élément qui était troublant. Il y a aussi des éléments qui ont été vraiment troublants aussi, par exemple des études qui ont été faites sur la prière qui m'ont beaucoup impressionné aussi, qui montrait que des groupes de prière qui faisaient sur des femmes qui suivaient des fécondations in vitro, eh bien c'est les femmes qui bénéficiaient des prières avaient 50% de fécondation in vitro réussie en plus que le groupe qui ne bénéficiait pas de cette prière, alors qu'elle ne savait pas forcément qu'elle bénéficiait des prières. Donc déjà, ça montrait la force de la pensée qui était derrière ces études sur Harvard, ces études sur le bonheur. Et puis, après ça, on s'est aperçu que on pouvait aller plus loin, et grâce à la physique quantique nous a... Il y a des pensées dans un certain nombre de groupes de recherche qui pensent que nous serions les créateurs de notre monde. En ce sens que nous ne serions pas dans un monde avec 7 milliards d'individus, par exemple sur la Terre, nous serions plutôt avec 7 milliards de mondes, chacun serait dans son monde, mais nous serions tous reliés par une trame commune. Et à l'intérieur de notre monde, nous serions capables nous sommes les rois, je veux dire, nous sommes capables de l'influencer dans le positif ou dans le négatif selon nos pensées. Mmh. Et donc de là est venue d'ailleurs ma découverte de l'Oponopono, qui était vraiment quelque chose qui a été extraordinaire, parce que quand j'ai lu les premiers textes du docteur Allen là-dessus, j'ai su immédiatement qu'il était dans le vrai, et après ça, l'expérimentation que j'ai pu faire dans ma vie personnelle m'ont montré les résultats immédiats. D'un autre côté, il y avait la loi de la résonance. Moi, j'appelle ça la loi de résonance parce que ça correspond à mes soins énergétiques. D'autres appellent ça la loi de l'attraction. Eh bien, dans les soins énergétiques, on utilise d'une manière constante, dans les soins énergétiques que j'enseigne, je veux dire, on utilise d'une manière constante la loi de résonance. Donc on est sans arrêt en train de demander et pour recevoir les énergies, pour les replacer, pour ceci, pour cela. Et au fur et à mesure qu'on le demande, d'une manière consciente et claire, eh bien on obtient des résultats pratiquement immédiats. Donc c'est ces deux éléments que sont l'Oponopono, qui nous permet d'effacer les mémoires négatives, les situations désagréables dans notre vie, et que ce soit cette loi de la résonance qui nous permet, là, d'un autre côté, de choisir, de décider de ce que l'on veut mettre dans notre vie. Ces deux directions, qui sont, à mon sens, complémentaires, permettent vraiment de prendre notre vie en main et de choisir notre destin. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, on a une trame commune, donc on a toujours une influence, des influences extérieures, un petit peu comme les nouvelles énergies qui arrivent maintenant depuis quelques années. Mais d'un autre côté, on est quand même les responsables et les créateurs de la plupart des éléments. Et pour vous donner un exemple, c'est une jeune femme qui a écrit un article dans Psychologie il y a peut-être un an à peu près, quand est sorti mon livre sur Ho'oponopono. Cette journaliste, je ne l'ai jamais rencontrée, mais j'ai lu son article. Et il était tout à fait intéressant, parce qu'elle a très bien résumé la technique d'Ho'oponopono et le sens. On lui avait donné ce livre à étudier, donc on lui avait demandé de faire un article dessus. Et donc elle a pris ce livre en disant, oh, encore un livre d'évolution personnelle, un de plus sur la pile, voilà. Donc, bon, comme on lui a demandé d'écrire quelque chose, elle l'a quand même étudié, elle a commencé à le lire, et puis elle est partie faire sa pause de midi. À la pause de midi, elle a été déjeuner avec son ami, et alors qu'il connaissait une grande histoire d'amour, une belle histoire d'amour, comme elle le dit dans son article, eh bien, ça a été le crash ce jour-là. Ça a été vraiment la première dispute, vraiment. Donc, elle est rentrée au bureau très dépitée, très triste. Et puis, bon, elle a dit, bah, puisqu'il faut quand même que je bosse, elle a repris le livre, et puis, en prenant le livre, elle dit, bah, tiens, on va voir si ça marche, machin. Donc, elle a fait toute la Ho'oponopono, merci, je suis créateur de tout ce que j'ai fait, c'est moi la créatrice de la situation que j'ai vécue ce midi, désolé de l'avoir fait, désolé, pardon, merci, je t'aime. Donc, il y a tout un, deux, trois petits mots comme ça qu'on dit, et elle raconte dans son article qu'elle avait à peine fini de faire ça, qu'il y avait son ami qui était en train de téléphoner en disant, écoute, on s'est engueulé, mais mes mots ont dépassé nos pensées, on est au-dessus de tout ça, il faut s'en mettre. Et donc, elle continue l'article en disant, bah, depuis ce jour-là, bah, Ho'oponopono, ça fait partie de notre mode de vie, c'est notre manière de vivre, choses comme ça. Donc, c'est tout à fait ça, c'est qu'Ho'oponopono peut changer notre vie et des choses négatives dans notre vie d'une manière rapide, comme ça, pour les petits éléments. Les éléments plus lourds, ça peut prendre un petit peu plus de temps, mais on a possibilité tout à fait de l'obtenir.
En tout cas, avec cette loi de la résonance, on pourrait presque arriver à faire de la télépathie. Je pense que si on explorait un petit peu toutes nos capacités cérébrales, on pourrait arriver à faire de grandes choses. Et comme vous le dites, là, ben, elle a suivi ce protocole Ho'oponopono, mais parfois, on se rend compte dans la vie quotidienne, on pense très fortement à quelqu'un, et à ce moment-là, on a de ses nouvelles, il nous appelle. Donc, on se rend compte qu'on est en résonance les uns avec les autres.
Exactement. On est en résonance et en plus ça va de plus en plus fort, parce que je pense que vous savez qu'actuellement notre Terre bénéficie d'un certain nombre d'énergies qui sont de plus en plus puissantes, qui nous viennent de l'espace, et d'ailleurs on le voit au niveau de la résonance de Schumann qui est une résonance qui se retrouve au niveau de l'atmosphère terrestre et qui correspond à l'énergie, au magnétisme terrestre. Et donc depuis quelques années il monte d'une manière très fortement, et moi ce que je me suis aperçu au niveau des soins énergétiques, qu'il y avait de nouveaux chakras et de nouvelles compétences qui étaient en train de se développer chez l'être humain. Il y en a une qu'on retrouve maintenant et qui fait vraiment chaud au cœur. La première, c'est que tout simplement on a l'impression on n'est plus isolé, on a vraiment l'impression d'appartenir à une grande nation qui s'appelle l'humanité. Et donc c'est vraiment un élément qu'on retrouve de plus en plus. Je ne sais pas si vous l'avez noté, vous, de votre côté, mais c'est quelque chose qui me répond, moi, par rapport aux personnes que je côtoie, et on n'est plus des Français, des Européens, des Américains, etc. Nous sommes des humains. Et donc il y a vraiment cette notion d'appartenance à l'humanité qui est importante. Et donc, et on a les autres talents qui se développent, ce sont aussi des talents de clairvoyance. Beaucoup de personnes commencent à avoir de plus en plus d'intuition, de prémonition, et comme vous disiez aussi, la télépathie aussi se développer. Donc tout ça, c'est des conséquences aussi, les choses vont de plus en plus vite, ça va de plus en plus vite et ça s'installe de mieux en mieux. Et c'est pour ça que des techniques comme l'Ho'oponopono, la loi de la résonance, qui auraient nécessité du temps autrefois, alors qu'aujourd'hui se font d'une manière très simple et très rapide. Et ça aussi, c'est aussi quelque chose, on vit une époque assez formidable là-dessus.
Oui, finalement, vous voulez dire que là, en 2012, ce lien invisible qui nous reliait déjà tous les uns aux autres est en train de se confirmer et s'affirmer même encore davantage.
Exactement. Alors bon, je ne pense pas qu'il va y avoir grand-chose qui va se passer en décembre 2012, mais je pense que, vous savez, on parle du calendrier Maya avec la fameuse date du 21 décembre ou 22 décembre 2012. Je ne pense pas qu'il va y avoir grand-chose qui va se passer. Par contre, cette date-là peut marquer une étape, un petit peu comme le 31 décembre marque une étape pour passer la nouvelle année. Et ça peut montrer un passage vers les nouvelles énergies, en particulier ce qu'on appelle l'ère du Verseau. Et comme disait Malraux, l'ère du Verseau sera spirituelle ou ne le sera pas. Alors, c'est un cajon qu'il ait raison, ce Malraux. Mais, Mais donc, ces nouvelles énergies nous arrivent. Donc, on le sait, on voit ça avec les répercussions que ça a au niveau des séismes, les nombreux séismes qu'il peut y avoir partout sur la Terre, les éruptions. On voit ça aussi avec les pôles le pôle Nord se déplace avec une vitesse jamais égalée. Donc, ça va de plus en plus vite également. Donc, il y a plein de choses qui se passent aujourd'hui. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça va vers quelque chose de beau. Et donc, et justement, ce sera d'autant plus facile et d'autant plus beau que nous sommes dans la confiance et dans la sérénité. C'est ça qui est important. Et c'est pour ça que l'énergie, tout ce qui était Ho'oponopono, tous ces éléments-là sont, à mon sens, la méditation sont extrêmement intéressants pour regarder l'avenir avec sérénité, parce que l'avenir sera ce que l'on ni en attend. Si on est dans le pessimisme et dans la crainte et dans l'angoisse, par contre, si on est optimiste et qu'on croit vraiment, qu'on envoie plein, qu'on rayonne de la compassion, du partage, etc., eh bien, il y a de fortes chances que l'on obtienne ce qu'on attend.
Oui, c'est peut-être finalement un changement d'air où on va abolir un petit peu nos peurs pour aller dans l'action, pour peut-être vivre plus les choses au jour le jour. Je ne sais pas si vous avez un petit peu cette vision des choses, mais plutôt que d'être tout le temps dans la projection, prendre déjà chaque instant comme le vivre vraiment à 100%.
Voilà, comme une bénédiction d'être ici maintenant. Et d'ailleurs, c'est ce que nous disent souvent les patients. Moi, quand on discutait avec mes patients qui étaient malheureusement en fin de vie, comme on le voit en cancérologie, souvent c'était leur position. Ils disaient, mais moi, si j'avais qu'un seul conseil à donner aux personnes qui vivent, qui sont en bonne santé, vivez aujourd'hui, maintenant et présent. Parce que ici, maintenant, quand on est ici, maintenant, eh bien, il y a un phénomène qui est très, très intéressant, qu'on oublie trop souvent. Eh bien, tout simplement, quand on est ici, maintenant, on tue l'ego. On arrête de parler avec notre ego. Et donc, on est ici, on vit le moment présent. Parce que dès qu'on est dans notre tête, dans le futur, dans le passé, c'est notre ego qui prend la place. Donc il faut vraiment ici maintenant nous permettre d'être je suis pas contre l'ego parce qu'il a sa place à prendre, il est utile dans certaines choses, mais il ne faut pas qu'il prenne toute la place là encore. Et donc il faut d'être ici maintenant nous permettre de faire taire cet ego, c'est un petit peu ce qui se passe aussi quand on fait de la méditation. Et aujourd'hui ce qu'il faut c'est faire taire complètement l'ego, mais de lui redonner sa place qu'il doit avoir. Mais par contre, ce qu'il faut, c'est surtout développer l'énergie du cœur. Et c'est ça qui est très important. Développer ce cœur, développer cette énergie du cœur, quand on prend nos décisions avec le cœur, on ne peut pas se tromper. Et on se sent bien.
Et c'est pour ça, parce que finalement, Oui, je vous en prie, terminez.
Non, je vous en prie, allez-y.
J'allais dire que peut-être notre plus grande barrière, c'est nous-mêmes, finalement.
Tout à fait. Surtout si on considère, comme je vous le disais tout à l'heure, que nous sommes les constructeurs de ce que l'on vit autour de nous. Donc ça nous permet d'expérimenter toujours notre vie. On expérimente à chaque seconde. Et donc, bien sûr, avec la création, il y a la responsabilité derrière. Mais d'un autre côté, l'expérimentation est très, très importante parce que ça nous permet d'apprendre et ça nous permet de grandir. Et ça, c'est le plus important. Et on amène toujours ce qu'on amène dans la vie, ce que l'on y apporte. Hein. C'est un petit peu comme quand, si vous déménagez, vous allez dans un autre endroit. Si vous n'avez pas résolu un certain nombre de problèmes dans votre vie, eh bien, l'endroit là où vous allez vous trouver, vous allez amener avec vos bagages les problèmes que vous aviez dans votre vie, dans votre autre maison. C'est vraiment, on est créateur de ce que l'on vit, et c'est vrai, nous, les blocages avec nos croyances, avec nos valeurs, avec tout ça, Ho'oponopono permet de faire vraiment un grand nettoyage de tout ça. Il y a d'autres techniques, hein. Il n'y a pas que l'Ho'oponopono. Ho'oponopono est pour moi quelque chose de simple, et surtout, ce qui est intéressant avec Ho'oponopono, c'est que c'est une technique que tout le monde peut faire, et on est complètement autonome, on ne dépend de personne pour la faire. Alors, ça ne remplacera pas la psychiatrie, la psychologie, les maladies, pour les maladies importantes, mais ça contribuera déjà aussi à les soulager. Mais pour nous, le commun des mortels, eh bien, ça donne vraiment des résultats extrêmement intéressants, et ça nous permet de nettoyer justement tout ce qui nous encombre notre vie. Et si on a, pour se préparer justement aux nouvelles énergies dont on parlait tout de suite, l'élément clé est justement de nettoyer bien notre corps en faisant attention à notre alimentation, en faisant attention à avoir un petit peu d'exercice, à notre temps de sommeil, etc. Et mais aussi à vraiment bien nettoyer notre tête, notre cerveau, notre psychisme, et donc de lever un petit peu tous les conflits qu'on pouvait avoir, qu'on n'a pas résolu dans le passé, de faire un nettoyage de tout ça, parce que plus on sera nettoyé de tout ça, moins on sera, plus notre corps, plus notre tête, plus notre âme, plus notre organisme d'une manière générale pourra s'élever, parce que tout autrement, tout ça, ça nous accroche trop dans nos problèmes, dans nos soucis, et donc on n'arrive pas à ouvrir notre esprit sur les autres choses. Et donc il faut vraiment se libérer de toutes nos angoisses, de tous nos problèmes, de tous nos soucis, parce que ça nous permet enfin de regarder la vie autrement, et déjà de la regarder joyeusement, ce qui est déjà très important.
Tout à fait, et de se laisser un petit peu, comme vous le disiez, remplir par cette énergie d'amour, d'action, d'empathie. Et c'est vraiment là, quand on est dans cette dimension-là, qu'on se sent heureux d'ailleurs.
Ah oui. Alors vous savez, il y a deux moments où on est vraiment particulièrement heureux, c'est quand on est déjà sur sa route. Quand on est sur sa route, même si c'est pas la route, si les voisins ne comprennent pas, mais quand on est sur sa route, quel que soit ce qu'on fait, on est bien. Et c'est comme ça qu'on sait déjà qu'on est sur la route. Et la deuxième chose, c'est quand on est justement dans cet amour, dans ce partage. Et j'incite beaucoup, beaucoup les personnes à dire, mais faites un petit peu de méditation. Mais la méditation, il suffit de se mettre dans un fauteuil et de faire le vide, se concentrer simplement sur sa respiration. Il n'y a pas besoin de se mettre sous un lotus en tailleur. Il y a besoin, on peut faire ça de manière très simple, même dans le métro.
Oui.
Et simplement, pendant qu'on se respire, quand on concentre uniquement sur sa respiration, et au bout d'un moment, on commence à imaginer tout l'amour qui commence à arriver dans notre cœur, et au fur et à mesure qu'il rentre dans notre cœur, dans un deuxième temps, on imagine qu'il est en train d'irradier à tout ce qui est autour de nous. Et ça fait vraiment un bien immense.
Alors, en tout cas, on va présenter pour nos auditeurs, donc, comme on a pas mal parlé d'Oponopono, on va quand même parler de votre livre que vous avez écrit, donc Oponopono, le secret hawaïen. Donc aux éditions Jouvence, vous avez coécrit ce livre.
Voilà, avec Maria Elisa Hurtado. Et d'ailleurs, dans le livre que vous avez cité aussi après, j'en reparle également, mais d'une manière plus succincte, parce que justement, il est déjà prévent. On avait déjà développé bien au niveau des éditions Jouvence. Mais voilà, je le réévoque au niveau de l'autre livre dont vous allez parler tout de suite, je pense.
Alors voilà, le deuxième livre dont on a parlé aujourd'hui, donc c'est Soigner avec l'énergie, Dr Luc Baudin, les thérapies quantiques et psycho-énergétiques aux éditions Guy Trédaniel. Donc le site des éditions Trédaniel, c'est www.editions-trédaniel.com. Peut-être qu'on peut donner votre adresse internet aussi de stage.
Ou mon site, ce sera plus simple, parce qu'il y a toujours la possibilité d'envoyer un contact, c'est www.stage-lucbaudin.com, donc stage Luc Baudin, c'est au pluriel, donc stage est au pluriel, et c'est en attaché, il n'y a pas de point ni de tiret.
Voilà,
il y a toutes les informations. Il y a aussi un autre site où vous avez beaucoup, beaucoup d'informations médicales, parce que Stage Luc Baudin, c'est plus tourné vers l'énergétique. C'est vraiment ce que je suis en train de développer et qui me passionne actuellement. C'est ce sur quoi je travaille. Par contre, tout ce que j'ai pu engranger comme informations diverses au niveau médical, je l'ai mis sur un autre site qui s'appelle Conseil au pluriel encore, lucbaudin.com. Et là, vous avez plus de 600 articles et on continue de l'alimenter pour toutes les choses d'ordre médical, que ce soit le cancer, la fibromyalgie, la sclérose en plaques, enfin tout ce qui est d'ordre médical. Mais je le livre un petit peu à tout le monde parce que, c'est mon éthique de donner, d'informer, de passer des choses. Et d'ailleurs, sur le livre, l'autre site Stage Luc Baudin, vous avez aussi beaucoup de livrets à télécharger. Il y en a un qui est vraiment un livre à télécharger qui s'appelle Préparez-vous au changement. Et donc ça donne toutes les informations sur ce qu'il est en train de se passer aujourd'hui dans le monde et justement comment s'y préparer, mais s'y préparer dans le calme, dans la sérénité, justement pour que tout se passe bien pour soi.
Donc oui, si les gens ont envie d'en savoir un petit peu plus sur 2012, il est très très bien fait ce livre, moi je l'ai déjà lu complètement, qu'il l'achète via internet ou en support papier, c'est vraiment un super bouquin.
Voilà, bah il est
en tout cas, moi, je voulais...
Non, je veux dire, il est à télécharger gratuitement, toujours sur le site. Et si, par contre, j'ai un support papier aussi qui est indiqué sur le site, là, par contre, il y a des frais pour l'impression, mais autrement, pour ceux qui veulent, il est à télécharger gratuitement, sans aucun problème.
D'accord,
c'est avec plaisir. Le but est de le diffuser, au contraire, passez-le à tout le monde, et il est fait pour ça.
En tout cas, moi, je tenais vraiment à vous remercier d'être intervenu aujourd'hui sur nos ondes, de nous avoir apporté autant d'ondes positives, et merci pour la dimension de votre message. C'est rare, et surtout de la part d'une personne formée à la médecine classique, de trouver autant d'ouverture d'esprit, autant d'amour. Donc voilà, vraiment, encore une fois, un grand merci. Et peut-être que je vous laisse le mot de la fin pour cette émission.
Écoutez, merci aussi de m'avoir laissé la parole, merci de m'avoir laissé tant de temps pour m'exprimer, parce que c'est rare aussi, c'est un grand bonheur là-dessus. Et mais ce que je voulais surtout dire aux éditeurs, c'est que ne cherchez pas la vérité ailleurs, elle est au fond de vous-même. Donc à l'époque où on est aujourd'hui, on a besoin bien sûr de s'informer, mais vous savez, aujourd'hui vous avez la réponse à l'intérieur de vous, et tout ce qui est maître, gourou, etc. Oubliez ça, recherchez simplement à l'intérieur de vous, vous avez toutes les réponses. Voilà, et la réponse est de toute façon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle est au fond de votre cœur. Le cerveau, on s'aperçoit qu'il n'est plus, ce n'est pas lui l'élément le plus important de notre organisme, l'élément le plus important est le cœur. Voilà, bah c'est surtout ça que si c'est le mot de la fin, j'en serais très heureux.
Et, bah, c'est un très beau mot de la fin. En tout cas, merci encore.
Merci à tous de m'avoir écouté, c'est gentil.
Très bonne fin de journée à tous.
Merci.